La blockchain en entreprise. Tout d'abord, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet avec les différents intervenants, on va accueillir sur scène Christian Poyot, qui est donc président de la commission de transformation numérique du MEDEF. Christian, c'est à vous.
Merci, bonjour à tous, très heureux de vous voir aussi nombreux. Et puis tout d'abord, bienvenue au MEDEF de la part de Pierre Gattaz. Le MEDEF, c'est la maison des entreprises, des entrepreneurs, donc vous êtes tous ici chez vous. Alors juste un mot sur la commission transformation numérique, quel est son objectif en tant que tel? Elle a été créée il y a maintenant 2 ans et demi à peu près, par Pierre Gattaz et Geoffroy Houde-Bézieux. L'objectif, c'est d'aider l'ensemble des entreprises françaises de toute taille, de tout secteur, de toute implémentation dans la... mieux leur faire comprendre l'opportunité que représente la transformation numérique, les enjeux forts, bien évidemment, mais surtout la possibilité d'augmenter son chiffre d'affaires, de parler à l'international, de monter en valeur. Et il faut qu'on avance fortement là-dessus. Les Français, en tant que citoyens, sont très en pointe. Les entreprises françaises sont en retard pour différentes raisons. Donc l'enjeu de notre commission, c'est d'œuvrer, avec beaucoup d'autres acteurs, pour encore une fois inciter les entreprises françaises à aller plus vite sur cette transformation numérique. On agit sur différents sujets. Il y en a un qui est en fait déjà de faire de la pédagogie, de faire de l'information. Donc on a un site qui s'appelle diag-numérique.fr qui permet pour une entreprise, une PME, une TPE d'évaluer sa maturité numérique et sa prise de conscience. On a mis en place des MOOC également, des learning expéditions dans les pays étrangers. Donc on essaie d'être dans le plus concret possible. Nous avons une deuxième action qui vise en fait à agir sur le réglementaire, si j'ose dire, qui est toujours un point important, qui l'est de plus en plus sur le digital. Et là, l'action doit principalement se mener au niveau européen. Tout le monde suit ce qui se passe en ce moment, y compris vis-à-vis des GAFA. C'est un élément important pour qu'en Europe, en tout cas, on puisse réduire la symétrie fiscale ou la distorsion de concurrence. Donc le MEDEF est très présent sur tous ces sujets, encore une fois en France quand c'est nécessaire, mais surtout en Europe. Et puis, troisième action que nous menons, eh bien, c'est d'essayer d'éclairer le futur. Le terme est un peu fort, peut-être j'en conviens, mais en tout cas, de montrer aux entrepreneurs, de les aider à comprendre qu'est-ce qui va arriver demain. Ou, en tout cas, pas cet après-midi, mais peut-être très rapidement quand même. Voilà. Donc, on a fait un certain nombre d'événements sur les sujets qui sont l'intelligence artificielle, l'IoT. Et bien évidemment, depuis maintenant un an, on a pris en compte la blockchain. La blockchain, clairement, la vision que nous en avons, c'est un vrai sujet. C'est pas un buzzword, quelque chose qui correspond à une réalité qui va monter en puissance progressivement. Ça, vous vous êtes expliqué par les intervenants tout à l'heure. Il y a des pays, notamment en Chine, dans lesquels c'est une réalité concrète. Ça l'est à travers, bien sûr, du Bitcoin, mais on va dire que c'est une des représentations de la blockchain. Mais peut-être que l'objectif principal de cet après-midi, c'est que vous ressortiez en vous disant c'est pas juste un mot technologique qui ne me concerne pas ou qui arrivera dans 15-20 ans. Non, c'est une vraie réalité qui peut vraiment complètement bouleverser les business models et notamment, bien sûr, tout ce qui est tiers de confiance, hein, tout ce qui est relation ou transfert de valeur, qu'elle soit monétaire ou autre, mais qui réellement va avoir un impact fort sur les entreprises. Comme d'habitude, la France est plutôt bien positionnée. On a des ingénieurs très forts sur le sujet, on a des start-up, etc. Mais nous n'en tirons collectivement les bénéfices que s'il y a une prise de conscience réelle de l'importance de la blockchain. C'est fait en partie par les pouvoirs publics qui ont commencé à légiférer, peut-être modestement, mais ils ont commencé à le faire, c'est plutôt déjà pas mal. Et si, encore une fois, l'ensemble des entrepreneurs entendent ce concept, ce mot, et commencent à réfléchir sur les nouveaux business models qui veulent être construits. Alors comment est-ce que nous avons agi de manière très concrète? On a fait un bisacathon qui a eu lieu au mois de juin en tant que tel, avec un certain nombre de partenaires, donc je les cite pour ne pas les oublier, le BCG en premier lieu, l'EM Lyon qui nous a accueillis, Bimayap, le CIGREF, Blockchain Partner, qui nous ont aidés à construire des groupes de travail autour de 5 thèmes, l'identité, la mobilité, la traçabilité, les objets connectés, les contrats. Et pendant 2 jours, donc on a fait un bisacathon sur une réflexion pour construire des business models avec des équipes constituées autant de chefs d'entreprise, bien sûr, de juristes, d'ingénieurs, de start-upers, de consultants, pour imaginer quels pourraient être un peu les modèles disruptifs. C'était vraiment une très bonne et très intéressante expérience, qui était nouvelle en plus au sein du MEDEF. Vous voyez, le MEDEF s'est bougé, c'est être sur des sujets tout à fait novateurs, avec des formes également de réflexion tout à fait novateurs. Donc ça a donné lieu à un livre blanc que vous avez dû avoir à l'entrée en tant que tel, qui permet d'avoir un panorama un peu complet de ce qui existe aujourd'hui. Alors En fait, il a été écrit en juin, donc je ne sais pas s'il est dépassé, peut-être pas quand même, n'exagérons rien, mais bien sûr, il y a des choses qui ont bougé. Enfin, je pense que clairement, ça permet quand même d'avoir une vision globale de qu'est-ce que, à quoi correspond la blockchain, qu'est-ce que ça veut dire, blockchain en tant que telle, et puis qu'est-ce qu'on peut imaginer derrière. Voilà. Je vais m'arrêter là. Encore une fois, très heureux d'échanger avec vous sur tous ces sujets. Je remercie tous les intervenants de leur présence dans la table ronde. Et puis Charlie Perrault, du journal Lounette, qui va animer cette table ronde. Merci de votre présence et bon intérêt sur ce sujet de blockchain.
Merci Christian. Maintenant, nous allons accueillir sur scène donc Claire Balva, qui est CEO de Blockchain Partners. Donc, vous avez sûrement entendu parler. C'est donc une start-up qui est née de la fusion de deux start-up, donc Blockchain France et Labo Blockchain. Et elle va avoir la lourde tâche de vous expliquer ce qu'est la blockchain en 15-20 minutes. Merci Claire.
Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Claire Balva, je suis la cofondatrice et CEO de Blockchain Partner et on fait essentiellement du conseil et de l'accompagnement technique, stratégique et juridique sur les technologies blockchain. Et donc mon objectif, ça va être en 15-20 minutes de vous vulgariser la blockchain pour que vous compreniez ce que c'est concrètement et je laisserai ensuite à Rodolphe du BCG la lourde tâche de vous expliquer ce qu'on peut en faire et quels en sont les cas d'usage. Alors, avant de commencer, je voudrais faire un petit sondage à main levée dans la salle. Qui avait déjà entendu parler de la blockchain avant d'entendre parler de cette conférence? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok, donc quasiment tout le monde. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui savent déjà ce qu'est une blockchain? À peu près. Ah mais c'est fabuleux. Je dirais les trois quarts presque au moins. Bon, bah, c'est super, hein, donc je vais pouvoir aller encore plus vite que prévu. Alors, pour expliquer la blockchain, je vais d'abord commencer par revenir aux origines de la blockchain. Et les origines de la blockchain, c'est tout simplement Bitcoin. Alors, qui a entendu parler de Bitcoin dans la salle avant cette conférence aussi? Parfait, tout le monde. Alors, petit récap quand même. Bitcoin, qu'est-ce que c'est? C'est une crypto-monnaie, une monnaie virtuelle, qui a été inventée, créée fin 2008, début 2009, par un anonyme, quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on surnomme Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, c'est un pseudonyme, donc vous verrez parfois dans la presse, on apprend qu'un inconnu, australien, américain, japonais, annonce être Satoshi Nakamoto, et en fait, on se rend compte quelques mois après que c'était pas vrai. Donc ça arrive régulièrement, mais il faut toujours rester méfiant. Alors, Bitcoin, c'est une monnaie pair à pair, une monnaie virtuelle pair à pair, c'est en quelque sorte du cash numérique. Quelle est la différence avec l'euro ou le dollar? Eh bien, tout simplement, quand vous vous échangez des euros ou du dollar, vous passez par une banque ou par un gouvernement. En quoi est-ce que c'est vraiment révolutionnaire de s'échanger de l'argent pair à pair? Eh bien, tout simplement parce que quand vous utilisez Internet pour vous envoyer de l'information, pour vous envoyer des fichiers, eh bien, ces fichiers, en fait, vous ne les envoyez pas vraiment, vous les copiez. Si je vous envoie une photo, en fait, je vous envoie une copie de cette photo, puisque moi, j'ai toujours la photo en question. Et donc, si je veux faire ça avec de l'argent, tout de suite, ça ne marche plus, puisque je fais de la création monétaire. Et donc, l'intérêt de Bitcoin, c'est que pour la première fois, on peut s'échanger de la valeur en pair à pair sans passer par un intermédiaire. Et donc, quelque part, c'est l'Internet de la valeur. Alors, la grande particularité, c'est que du coup, il n'y a pas d'organe central de contrôle. Il n'y a pas de banque centrale qui contrôle Bitcoin. Donc la valeur du Bitcoin est uniquement déterminée par l'offre et la demande. Ce qui veut dire que si demain tout le monde veut acheter des Bitcoins, forcément le cours monte. Donc là c'est une capture d'écran que j'ai prise ce matin du cours du Bitcoin. Voilà, ça commence en 2012 tout à gauche et puis là vous voyez ce matin le Bitcoin devait valoir 3 700 $ à peu près. Alors si vous voulez acheter des Bitcoins, ce qui à mon avis est une bonne idée, il faut quand même avoir le cœur bien accroché. Puisque le cours du Bitcoin peut chuter ou monter de 20% dans une même journée. C'est tout à fait normal. Donc il faut plutôt le voir comme un investissement long terme, puisque ce qui est quand même probable, c'est que le cours sur le long terme monte. Si vous en aviez acheté en 2013, ici, vous seriez déjà millionnaire aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de Bitcoin? Parce qu'en fait, Bitcoin, c'est la première blockchain. En fait, ce qu'on appelle la blockchain à l'origine, c'est tout simplement la liste des transactions effectuées en Bitcoin. L'origine du terme blockchain, c'est ça. Et ces transactions, elles sont regroupées en blocs, Et ces blocs sont attachés les uns aux autres. C'est pour ça qu'on appelle ça une chaîne de blocs, donc une blockchain. Alors, ce registre, cette liste, qui est évidemment numérique, elle a certaines particularités. D'une part, chaque bloc est horodaté. Donc on sait exactement à quel jour, quelle heure ont été effectuées toutes les transactions. Ensuite, et c'est là le plus important, ce registre, il ne va pas être stocké sur un serveur central, comme peuvent l'être les bases de données habituelles, mais il va être stocké sur de très nombreux serveurs qu'on appelle les nœuds du réseau. Donc sur Bitcoin, en l'occurrence, il y a plusieurs milliers de serveurs qui stockent l'intégralité du registre des transactions faites en Bitcoin. Les blocs sont rangés par ordre chronologique. Donc le bloc numéro 1 a été émis, je crois que c'est le 3 janvier 2009, et le dernier bloc a été émis il y a quelques minutes. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que comme on a un grand nombre de nœuds qui stockent la blockchain, eh bien, si un de ces nœuds s'arrête de fonctionner, c'est pas grave, tous les autres fonctionnent. Donc le système ne dépend pas d'un seul acteur. Et surtout, c'est un algorithme qui permet à tous ces nœuds de se mettre d'accord en permanence sur l'état du registre. Donc tout se fait automatiquement, il n'y a pas d'intervention humaine pour vérifier en live que le registre est bien à jour. C'est vraiment un algorithme qui fait fonctionner ce système sans qu'il y ait d'organe central de contrôle. Alors pour les plus techniques d'entre vous, mais là c'est pas non plus extrêmement compliqué, pour bien comprendre ce qui se passe, en fait on dit que la blockchain est immuable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir sur des transactions qui sont passées. Je ne peux pas décider d'effacer une partie du registre. Je ne peux pas décider de modifier une transaction qui a été faite. Tout simplement parce que ce registre est stocké sur un grand nombre de serveurs. Donc si je veux le modifier, il faut le modifier d'une part sur tous les serveurs. Et surtout, si je modifie une information qui est dans un bloc, automatiquement, je dois modifier tous les blocs qui suivent. Pourquoi ? Parce que chaque bloc, en fait, contient l'identifiant du bloc précédent. Et donc si je modifie le contenu d'un bloc, ça modifie son identifiant, donc le bloc suivant, donc l'identifiant du bloc suivant, etc., etc. Donc il y a vraiment un système de chaînage de données qui empêche toute modification piratée, entre guillemets, du système. Alors maintenant, en tant qu'utilisateur, comment ça se passe si demain vous voulez vous échanger des bitcoins ou n'importe quelle autre crypto-monnaie ? Bien, tout simplement, vous avez ce qu'on appelle une clé publique et une clé privée. Donc, la clé publique, c'est l'équivalent de votre numéro de compte. Et votre clé privée, c'est l'équivalent du mot de passe. C'est très important parce que ce mot de passe, si vous le perdez, personne d'autre ne l'a, en théorie. Il n'y a pas de banque centrale, il n'y a a priori pas de banque, donc vous êtes le seul à détenir votre clé privée. Et donc, si je décide d'envoyer 2 bitcoins à Rodolphe, qui est ici, je vais les lui envoyer sur sa clé publique et je vais signer la transaction avec ma clé privée pour prouver que c'est bien moi qui fais cette transaction. À partir de là, ma transaction elle est envoyée dans un groupe de transactions en attente. Et il y a certains nœuds du réseau qui vont constituer un bloc de transactions. Donc ils vont piocher les transactions dans le groupe de transactions en attente. Ils vont constituer un bloc et ils vont le valider au moyen de techniques cryptographiques relativement complexes, que je vulgariserai un petit peu après. Une fois que ce bloc est validé, les nœuds l'ajoutent à la chaîne, à la blockchain. Et c'est à ce moment-là qu'on dit que le bloc est validé et que Rodolphe a bien reçu les bitcoins que je lui ai envoyés. Tout ce process-là, alors pour Bitcoin, ça prend 10 minutes, pour d'autres blockchains, ça peut ne prendre que quelques secondes. Ce sont vraiment des règles qui sont fixées dans les protocoles des blockchains et qui peuvent totalement varier. Alors 10 minutes, c'est à la fois long et pas long. 10 minutes, c'est long si vous êtes à la caisse d'un supermarché. C'est très rapide, en revanche, si vous voulez envoyer de l'argent au Japon. Donc tout dépend ce à quoi on se réfère. Alors j'ai beaucoup parlé de Bitcoin, que j'utilise comme un exemple pédagogique, mais il n'y a évidemment pas que Bitcoin. Alors jusqu'en 2012, 13, voire 14, la blockchain c'était Bitcoin, et depuis se sont développées beaucoup d'autres blockchains. Alors il y a quelques noms qu'il faut avoir en tête. Ethereum, c'est probablement la deuxième blockchain, on va dire, après Bitcoin. Ethereum a l'ambition, on va dire, de dépasser le cadre purement monétaire de Bitcoin. Bitcoin, l'objectif, c'est de s'échanger de la monnaie de pair à pair. C'est pas forcément fait, c'est pas forcément programmé pour tous les cas d'usage, pour des métiers différents, etc. Ethereum, à l'inverse, a vraiment l'objectif de devenir une sorte d'ordinateur global, une sorte de web décentralisé sur lequel on pourrait plugger des applications plus diversifiées. Et donc Ethereum va essayer d'être un peu plus flexible, par exemple, dans son code. Hyperledger, c'est encore un peu différent, c'est une blockchain sans crypto-monnaie. Alors, vous allez me dire, du coup, qu'est-ce qu'il y a dans le registre ? Finalement, eh ben, il y a tout simplement d'autres informations. On va se servir de l'algorithme qui fait fonctionner ce registre pour y inscrire d'autres choses que des transactions. Et donc, ça peut être des informations, par exemple, sur la traçabilité d'une supply chain. Il y a en fait plein de cas d'usage blockchain où on n'a pas forcément besoin de crypto-monnaie. Distinction à faire entre les blockchains publics et les blockchains privées. Une blockchain publique, Bitcoin par exemple, c'est une blockchain à laquelle vous et moi on a accès. C'est-à-dire qu'on peut se connecter sur Internet et visualiser la liste de toutes les transactions qui ont été faites dans cette crypto-monnaie, dans cette blockchain. On peut décider de stocker le registre sur notre ordinateur. On peut décider voilà, d'avoir un nœud chez soi. On peut décider de participer à la validation des transactions, etc. Une blockchain privée, à l'inverse, c'est une blockchain où les droits d'accès sont restreints. Pourquoi est-ce qu'on crée des blockchains privées ? Tout simplement, parfois pour des raisons de confidentialité des données, et puis parce qu'on peut avoir envie, tout simplement, d'avoir un protocole un peu différent des blockchains habituelles. On veut pouvoir personnaliser un peu sa blockchain. Je sais pas, je vais vous donner un exemple. Finalement, si on a un consortium de banques qui décide de créer une blockchain interbancaire pour faire des transactions entre elles, elles n'ont pas du tout intérêt à ce que vous et moi, on aille se greffer sur leur blockchain pour faire des transactions. Donc elles vont restreindre les droits d'accès. Ce qu'il faut bien voir, c'est que souvent, quand on utilise une blockchain, il y a un compromis à faire entre la sécurité du système qu'on souhaite et sa fluidité ou sa flexibilité. Et donc c'est pour ça qu'ici, c'est un peu schématique forcément, mais souvent les blockchains publiques vont être plus sécurisées, mais du coup quand vous les utilisez, vous vous pliez à un protocole existant. Et les blockchains privées vont, elles, être plus flexibles, puisque vous pouvez décider de personnaliser votre protocole. Alors, je vais rentrer un peu dans le dur du sujet. En fait, je vais rentrer ici dans le détail de l'étape 3, qui est finalement comment est-ce que le système se met d'accord. Il n'y a pas d'organe central de contrôle, certes, mais comment est-ce qu'on fait pour être tous d'accord sur l'état du registre ? Comment ça marche ? Donc ici, il y a plusieurs questions qui se posent. Tout simplement, déjà, comment est-ce qu'on valide des transactions ? Quels sont les critères ? Bon, il y a déjà des critères assez évidents. Finalement, si je valide une transaction en Bitcoin, il faut que j'ai assez de Bitcoin pour en envoyer. Ça, c'est facile. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres critères ? Deuxième question, qui a le droit de valider les transactions ? Est-ce que c'est tout le monde ? Est-ce que c'est certains acteurs restreints ? Est-ce que je veux rendre cette validation complexe pour pas que tout le monde puisse d'un coup aller valider les transactions ? Ou est-ce que je veux que cette validation soit un petit peu compliquée ? Et dernière question, comment est-ce que j'incite comment est-ce que j'incite les nœuds, les mineurs, à participer au système ? Comment je fais en sorte qu'il y ait un effet réseau dans la blockchain que je crée pour que les personnes aient envie d'y participer ? Alors, première technique, qui est la technique la plus utilisée, et qui est notamment utilisée sur la plupart des blockchains publics, on appelle ça le proof of work. Alors, preuve de travail en français. Je vais simplifier un petit peu parce que ça reste assez complexe. En fait, le proof of work, ça consiste à mettre les nœuds du réseau qui valident les transactions, alors on appelle ça des mineurs, en compétition. Ils vont tous être en compétition pour gagner des bitcoins. L'objectif, c'est de valider le plus vite possible un bloc de transactions et celui qui le valide en premier est rémunéré en bitcoin. En ce moment, c'est 12,5 bitcoins à peu près, donc à 3 700 euros. Le Bitcoin, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'ils font finalement ces mineurs ? Eh bien, ils analysent que j'ai assez de Bitcoin pour en envoyer, ça c'est assez basique. Mais ensuite, ils doivent résoudre des équations cryptographiques assez compliquées pour lesquelles ils dépensent une grande puissance de calcul. Pourquoi le système est comme ça ? Tout simplement pour faire en sorte qu'il n'y ait pas n'importe qui puisse venir et décider de miner des Bitcoins avec son iPhone. Finalement, l'objectif, c'est de sécuriser le réseau et de faire en sorte qu'il y ait un obstacle à l'entrée, que ce soit relativement difficile de venir valider des blocs de transactions. Et donc les mineurs de Bitcoin, souvent sont situés en Chine d'ailleurs, puisque là-bas l'électricité est moins chère, donc c'est beaucoup plus rentable. Les mineurs de Bitcoin aujourd'hui, c'est souvent des fermes entières de serveurs qui tournent et qui valident les blocs de transactions. Alors, avantages et inconvénients. Avantages, c'est probablement la technique la plus sécurisée, même s'il y a parfois des débats. Inconvénient, c'est probablement relativement énergivore, même s'il n'y a aucune étude relativement sérieuse sur le sujet. On peut estimer que ça reste énergivore puisqu'on a beaucoup de serveurs qui dépensent beaucoup de puissance de calcul pour valider des blocs de transactions. Et finalement, à la fin, il n'y en a qu'un seul qui valide vraiment le bloc. Donc quelque part, tous les autres ont entre guillemets travaillé pour rien. Deuxième technique, probablement moins énergivore, même si là-dessus c'est toujours pareil, il n'y a jamais eu d'études sérieuses sur le sujet, c'est ce qu'on appelle le proof of stake ou preuve d'enjeu. Alors là, c'est un peu différent. En fait, au lieu de dépenser de la puissance de calcul pour montrer que j'ai un intérêt dans le système, pour montrer que je suis de bonne volonté, on va me demander de prouver que je possède un certain nombre de jetons de crypto-monnaie. Et on va se dire, finalement, si je possède X jetons, ou si je possède tant de bitcoin, même si bitcoin ne fonctionne pas sur cet algorithme-là, c'est que j'ai un intérêt à ce que le système marche, j'ai un intérêt à ce que ma blockchain soit performante, qu'elle dure dans le temps, etc. Et donc, ici, ceux qui veulent valider des blocs vont placer un certain nombre de leurs jetons, de leurs crypto-monnaies en séquestre pour prouver qu'ils ont un intérêt et vont avoir le droit, à ce moment-là, de valider les blocs. C'est un système qui est probablement moins énergivore, mais qui est potentiellement un peu plus capitalistique, puisque forcément, ceux qui possèdent beaucoup de crypto-monnaies vont avoir le droit, plus souvent, de valider les blocs de transactions. Dernière technique, qu'on appelle la preuve d'autorité, qui là est pour le coup plutôt mise en place dans des blockchains privées, c'est tout simplement de distribuer des droits d'autorisation quand vous créez votre blockchain. Vous dites finalement, je reprends mon exemple de consortium de banque, je peux très bien mettre en place un système avec de la preuve d'autorité en disant j'ai 5 banques qui vont créer leur blockchain interbancaire et un bloc de transaction est valide uniquement si 3 banques sur 5 disent oui c'est valide. Par exemple, système tout simple, donc avec des droits d'accès, des sortes d'administrateurs qui ont le droit de valider des transactions. Forcément, sur une blockchain publique, ce système-là, il est un peu plus compliqué à mettre en place, puisque ça nécessite d'avoir des acteurs prédéfinis qui vont valider les blocs de transactions. Je vous remercie. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un petit peu mieux les mécanismes techniques derrière la blockchain. Je vais passer la parole à Rodolphe et puis je resterai disponible à la fin si jamais vous avez des questions. Merci.
Bonjour à tous. Rodolphe Chevalier, moi je travaille au BCG où on a souvent été amené à, auprès de nos clients, intervenir sur des réflexions blockchain. Et puis on a eu l'honneur de contribuer avec le MEDEF au livre blanc que certains d'entre vous, ou beaucoup d'entre vous, ont. Alors merci beaucoup à Claire pour cet éclairage. Pour poursuivre peut-être un petit peu dans la logique de sondage, qui a des bitcoins ici? D'accord. Vous les avez achetés quand? Il y a longtemps? Avant 2014? Après 2014? Bravo. Ce qui est intéressant aujourd'hui dans ce qu'on voit sur la blockchain, et je pense que c'est le cœur de l'éclairage que je vais essayer de vous donner maintenant, c'est de voir à quel point est-ce que les cas d'usage industriels, au-delà de cet exemple Bitcoin qui est le premier à l'échelle, qui est le premier vrai cas d'usage de la blockchain, quels sont les cas d'usage qui commencent à se développer dans l'industrie? Alors, est-ce que vous êtes capable, enfin, qui d'entre vous est capable de citer 3 cas d'usage industriel, c'est-à-dire hors secteur financier ou assurantiel? D'accord. Donc, l'objectif de ce rapide sondage, c'est de faire écho à ce que nous, on a découvert avec le MEDEF quand on a lancé notre enquête sur ce sujet-là. On se rend compte que 70% des adhérents du MEDEF s'intéressent au sujet. 2/3 ont envie de mettre en place des expérimentations. Mais quand on arrive à la question de savoir qu'est-ce que je fais concrètement, à quoi ça sert, quel usage, et puis comment je fais, c'est là que ça commence à être un tout petit peu difficile. Et donc je vais essayer cet après-midi de vous donner quelques exemples concrets de à quoi ça sert. Et puis l'objectif de la table ronde sera de vous donner aussi un éclairage sur comment on fait concrètement quand on décide de s'y mettre dans une entreprise. Alors, les grands cas d'usage de la blockchain, fondamentalement, c'est quoi? Alors, il y en a un premier qui est autour de l'identification et de l'authentification de chaînes d'information. Il y a un truc qui est très important dans la blockchain, c'est que ça vous permet de prouver une information clé dans un processus sans avoir à fournir le détail de la documentation. Alors, c'est un peu abstrait, mais l'exemple concret, qui évidemment ne fonctionne pas comme ça, mais qui est le plus parlant, c'est vous entrez dans un bar, il est interdit de vendre de l'alcool aux personnes de moins de 18 ans. Comment vous faites pour démontrer que vous avez plus de 18 ans sans donner votre carte d'identité ? Les protocoles blockchain permettent de faire ça. Elles permettent de démontrer dans un processus compliqué que le document ou la preuve d'une documentation, d'une certification est bien là, sans avoir à tout dévoiler sur vous. Ce qui, et on va y venir, représente un vecteur qui est un vecteur très fort de protection des données personnelles dans des systèmes d'échange de données. Hein, on vit dans un monde dans lequel les données générées sont en multiplication exponentielle et assez terrifiante. Ce qui pose deux sujets. Un sujet qui est un sujet autour de la confiance que vous avez dans les données auxquelles vous avez accès. Et un deuxième sujet qui est, en tant que fournisseur de données, quelles sont les données que vous avez envie de mettre dans le système et quelles sont les données que vous avez envie de préserver. La blockchain permet, dans des cas d'usage autour de l'identification et de l'authentification, d'avoir une bonne maîtrise en tant que producteur de données sur qu'est-ce que vous voulez mettre comme information dans un système d'échange et qu'est-ce que vous voulez conserver confidentiel, tout en validant le fait que les informations certifiées qui permettent d'avancer sont là. Donc il y a un premier cas d'usage autour de l'identification et de l'authentification. Le deuxième cas d'usage, il est autour de la traçabilité. Et je vais y venir avec un cas concret. Mais la blockchain, et notamment, pour rebondir sur ce que disait Claire tout à l'heure, l'inscription horodatée d'échanges et de flux de données, est un levier extrêmement fort de traçabilité, de suivi, là encore, dans des processus qui sont dans des processus complexes. Et je vais y venir avec un exemple. Le troisième cas d'usage, c'est un cas d'usage de fonctionnement de place de marché. Ce en quoi, d'ailleurs, la blockchain va être un vecteur fort de développement de l'économie du partage, en permettant des systèmes qui sont des systèmes décentralisés de sécurisation de paiement. Et le quatrième grand cas d'usage de la blockchain nous paraît être le fonctionnement des contrats intelligents, des smart contracts. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier de ces concepts, mais l'idée d'un contrat, des smart contracts, c'est que ce sont des contrats qui automatisent le lien si-alors. Alors, les assureurs travaillent beaucoup là-dessus, avec des contrats, par exemple, fondés sur la météorologie ou sur des retards d'avion. À partir du moment où vous prenez une assurance contre un retard d'avion, on peut avoir automatiquement et de façon sécurisée l'information sur est-ce que l'avion a été en retard ou pas, et l'assuré n'a pas besoin, pour récupérer son indemnité, de déposer un dossier auprès de son assureur. Donc le fonctionnement des contrats intelligents, par la sécurisation et l'authentification des données qui permettent de déclencher l'élément qui est au cœur du contrat, la blockchain permet de faire fonctionner des contrats intelligents. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le concret, je vais vous parler d'un cas d'usage qui est un cas d'usage qui est en train de se développer de façon très rapide et de façon très globale, autour de la sécurisation des chaînes d'approvisionnement, et notamment la sécurisation des chaînes alimentaires. Walmart travaille avec IBM, et en intégrant progressivement de grands acteurs de l'agroalimentaire, sur des systèmes de traçabilité de bout en bout de chaînes d'approvisionnement alimentaire, pour assurer leur, en gros pour les sécuriser et pour répondre au risque de fraude. Et ce travail, il a démarré à cause de scandales sanitaires sur la viande de porc en Chine, sur les mangues au Mexique. Donc l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est d'être capable de retracer dans une chaîne logistique alimentaire de bout en bout, allant de l'éleveur de porc jusqu'au magasin. Donc de retracer toutes les étapes d'un lot, hein, d'une barquette de porc ou d'un lot de mangue, en collectant des données comme la température, comme la provenance, comme l'état, la qualité des aliments. Et ça, c'est quelque... qu'est-ce que ça permet ? Ça permet d'être capable, quand vous avez un problème de contamination d'aliments à un endroit de la chaîne, de pouvoir retrouver, dans des délais qui sont des délais extraordinairement plus rapides que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, à quel point de la chaîne logistique le problème est apparu, quel est le lot concerné, et de cibler, par exemple, les destructions de viande sur les lots qui sont vraiment, à risque ou qui ont suivi exactement le même chemin logistique. Hein, donc l'objectif, c'est de lutter contre les destructions massives d'élevage quand vous avez un problème sanitaire qui apparaît à un bout de la chaîne alimentaire. Et donc à chaque étape de la façon dont ça fonctionne, c'est qu'à chaque étape de la chaîne, vous rentrez ces données et le caractère infalsifiable de la blockchain permet... permet d'assurer une traçabilité qui est une traçabilité extrêmement, extrêmement forte et d'avoir des pistes d'audit qui vous permettent de remonter en amont de la chaîne quand un problème apparaît. Alors en quoi est-ce que la blockchain a un avantage déterminant pour faire ça ? Je pense que quand on regarde fondamentalement ce qu'est la blockchain, qui est un registre, certes digital, certes partagé, la blockchain, elle permet de construire des bases de données. Alors en quoi est-ce que dans ce cas d'usage-là, la blockchain est beaucoup plus pertinente qu'une simple base de données. Il y a deux raisons. Le premier, c'est le volume d'informations monstrueux que ça suppose. C'est-à-dire quand vous vous donnez comme objectif de suivre de bout en bout d'une chaîne alimentaire toute la viande de porc que vous vendez dans vos magasins, vous avez besoin de gérer une quantité de données extraordinaire et... vous avez besoin de la gérer avec tout un écosystème. Encore une fois, les éleveurs, toute la chaîne de transport, dans un écosystème dans lequel les gens ne se font pas forcément confiance. Et donc, la blockchain permet de recréer de la confiance dans une chaîne dans laquelle on va se poser, dans un processus complexe, dans lequel des responsabilités engagées par les uns et les autres sont potentiellement très complexes. Et donc, c'est en ça que la blockchain, la sécurité des pistes d'audit, l'authentification des données, le caractère infalsifiable des archives lui donne un avantage qui est déterminant. Alors, quelle est la limite de la blockchain dans ce cas ? La limite, c'est comment est-ce qu'on vérifie que l'information qui est rentrée dans le système est juste. Hein, on entend souvent dire que la blockchain permet de générer de la confiance ou d'éliminer les tiers de confiance. En fait, il faut bien se rendre compte que le problème de la confiance, il est déplacé à la périphérie de la chaîne. Si l'éleveur rentre n'importe quoi en amont de la chaîne, vous aurez une fiche d'identité de votre lot qui sera fausse. Hein, vous serez capable de suivre cette fiche d'identité de façon extrêmement sécurisée et certifiée tout au long de la chaîne, mais l'information initiale est fausse. Et donc la question, c'est comment est-ce que vous vous assurez que le point d'entrée est juste. Et donc la confiance est déplacée en amont de la chaîne d'information. Alors, le deuxième exemple sur lequel je voulais revenir, c'est l'exemple de la gestion d'un réseau distribué d'électricité verte, enfin, d'électricité voltaïque par exemple, à l'échelle d'un quartier intelligent ou d'un immeuble. Donc, c'est un sujet sur lequel travaillent beaucoup d'acteurs. En France, Bouygues Immobilier travaille avec Stratum sur ce type de mécanisme, mais il y a d'autres exemples dans plein d'endroits dans le monde, et ça a notamment démarré à Brooklyn. Comment ça marche ? Le principe, c'est de travailler sur un réseau de production-distribution d'électricité complètement décentralisé. Vous avez un immeuble qui produit de l'électricité photovoltaïque, et cette électricité, elle est autoconsommée sur place, mais en étant capable de... c'est en ça que la solution blockchain apporte quelque chose de nouveau, en étant capable de tracer... l'électricité produite et consommée par chacun. Pourquoi ? Soit pour rentrer dans un système qui est un système de place de marché où vous allez facturer cette électricité, soit pour rentrer dans un système où on certifie la production de crédits d'énergie verte, par exemple. Hein,
une échelle d'un quartier ou d'un immeuble, on n'est pas forcément capable de dire aujourd'hui quelle part de l'électricité consommée est d'origine verte. La blockchain permet de répondre à cet enjeu-là. Alors, comment ça fonctionne dans la pratique ? Vous allez avoir des capteurs qui vont être des capteurs positionnés à la fois sur les panneaux photovoltaïques et puis sur les compteurs de chaque immeuble ou de chaque appartement. Et ces compteurs, ces capteurs vont horodater la consommation et la production d'électricité pour permettre d'avoir de façon décentralisée et sans que personne puisse prendre le contrôle de ces échanges, hein, pour qu'on puisse mesurer qui a consommé quoi, très concrètement. Et donc vous avez des nœuds qui valident et sécurisent les transactions dans le cas où on se situe dans un exemple d'une place de marché. Et donc la blockchain a comme avantage déterminant dans ce système-là, ne pas reposer sur un contrôleur. Vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin que le gestionnaire de réseau fasse la balance des flux entrants, sortants pour générer des facturations ou pour certifier des crédits de consommation d'électricité verte. Et vous pouvez donc construire un système qui est un système totalement décentralisé de distribution d'électricité. Et donc en ça, ce sont des cas d'usage qui sont des cas d'usage qui sont au service d'économie du partage. Il y a d'autres cas d'usage qui sont assez proches de celui-là, par exemple dans les bornes de distribution d'électricité pour les voitures électriques. Il y a des startups qui travaillent là-dessus en Allemagne. Comment est-ce que vous faites pour créer un système qui est un système de mise à disposition des bornes électriques pour tous les propriétaires de voitures, hein. Concrètement, vous vous baladez dans un quartier qui n'est pas le vôtre, vous n'avez plus d'électricité dans votre voiture, et vous allez vous brancher sur la borne d'un autre particulier en le payant en droit d'usage d'une borne, de la borne qu'il souhaite où il veut. Et donc on est dans la construction d'une économie circulaire de partage de bornes d'électricité. Alors, le dernier cas d'usage sur lequel je voulais venir rapidement, dans l'intérêt du temps, je vais aller vite, c'est le lien avec les objets connectés. La blockchain, aujourd'hui, il y a des startups qui fonctionnent sur des dispositifs et des applications qui vous permettent d'ouvrir la porte d'un appartement grâce à un QR code dès lors que la preuve d'un paiement ou d'une transaction pour louer l'appartement est faite. Donc concrètement, c'est du Airbnb sans avoir besoin d'Airbnb. Parce que vous avez accès à l'appartement que si le paiement est fait. Et donc on retrouve la capacité de la blockchain à fournir une preuve, une certification dans un processus complexe et qui peut déclencher quelque chose comme l'ouverture d'un appartement. Alors, bien sûr, ça a déjà été dit par Claire, et je pense que ça va être redit en table ronde, la blockchain reste une technologie qui est une technologie, je ne vais pas dire immature, mais qui pose beaucoup de questions. Il y a des questions techniques sur est-ce que tous ces cas d'usage, on peut les faire de façon pertinente, reposer sur une blockchain privée ou sur une blockchain publique. Il y a des débats qui sont des débats juridiques. Quand on est sur des choses aussi complexes que de la traçabilité alimentaire, la question juridique qui se pose, c'est quelle est l'opposabilité d'une inscription dans la blockchain d'une information sur la qualité d'un lot alimentaire, par exemple, ou sa température à un moment T. Donc des questions juridiques qui sont très lourdes. Et puis des questions financières. C'est quelle est, à chaque fois, dans chacun de ces cas, quelle est la valeur ajoutée concrète par rapport à une base de données simple de la blockchain ? Il n'y a évidemment pas de réponse aujourd'hui à ces questions. Ça va beaucoup dépendre des cas d'usage. Mais ça doit être un appel, et c'est là-dessus qu'on voulait insister, ça doit être un appel à justement travailler sur des cas d'usage concrets pour se projeter sur les débats juridiques et techniques que ça pose. Et dans les questions que ça pose quand vous allez mettre ça en place dans vos entreprises, c'est quelles sont les données que vous voulez sécuriser, quels sont les processus clés sur lesquels vous travaillez et quels sont les écosystèmes dans lesquels vous intervenez. La blockchain n'a de sens que si elle permet de travailler à l'échelle d'un écosystème. Et donc comment est-ce que d'un écosystème de partenaires, de fournisseurs, de clients. Et donc comment est-ce que vous associez cet écosystème-là à vos réflexions sur les cas d'usage, les choix techniques? Ça fait partie des questions que vous devez vous poser quand vous démarrez, des réflexions qui sont indispensables quand on voit le potentiel disruptif de cette technologie. Voilà, je vais arrêter là ma présentation sur les quelques cas d'usage qui nous paraissent... qui paraissent stimulants en tout cas, pour laisser la place à la table ronde qui va rentrer plus dans la question de savoir comment est-ce qu'on fait concrètement pour s'y mettre, quels sont les obstacles et comment est-ce qu'on peut de façon efficace travailler sur ces sujets-là en entreprise. Merci beaucoup.
Merci Rodolphe. Eh bien, maintenant, j'invite les intervenants à table ronde à me rejoindre sur scène. Déjà, merci d'avoir répondu présent à l'invitation du MEDEF. Donc, Rodolphe l'a évoqué, donc nous allons parler dans cette table d'onde. Donc, voilà, comment s'y prendre concrètement pour mettre en place un projet blockchain dans une entreprise. Donc, on retrouve encore une fois donc Claire Balva qui va nous faire part de ses expériences, Nicolas Harlet du BCG. Ensuite, nous avons Olivier Sénaud, qui est donc directeur du développement des nouveaux services dématérialisation chez DocaPost, donc la filiale du groupe La Poste. Et vous avez donc lancé en août dernier une solution d'archivage basée sur la blockchain. Ensuite, nous avons donc Jean-Paul Julien, juste ici. Donc, vous êtes à la direction ingénierie et projet du département signalisation de SNCF Réseau. Et vous menez actuellement une expérimentation blockchain. Et enfin, donc, juste au bout, Gilles Cadignan, donc président de la start-up Wallit. Et donc, vous proposez un logiciel en mode SaaS qui certifie et authentifie les données numériques sur la blockchain Bitcoin. Et moi, j'ai oublié de me présenter tout à l'heure, mais donc, je suis Charlie Perrault et je suis journaliste donc, au Journal du Net. Et j'ai en charge la rubrique FinTech, donc c'est moi qui traite tous les sujets liés à la blockchain. Voilà, donc peut-être pour commencer, on avait un chiffre que Rodolphe a un petit peu évoqué, je crois, donc 69%, ce qui est donc 69% des décideurs seraient prêts donc à expérimenter la blockchain au sein de leur entreprise. Donc c'est selon un sondage qui a été réalisé par le MEDEF en mai 2017 auprès d'entreprises françaises de toute taille et de tout secteur. Donc on voit l'intérêt effectivement pour la technologie. Mais avant effectivement de parler vraiment des cas d'usage que les intervenants vont évoquer, on va peut-être commencer par le commencement, donc à savoir les étapes pour lancer un projet blockchain. Donc première question peut-être pour Gilles Cadignan, qu'est-ce que les entreprises viennent vous demander quand elles viennent frapper à votre porte, quelles sont un peu leurs interrogations?
Alors nous chez Wallit, on a l'avantage d'être assez ciblé sur vraiment un cas d'usage technique qui est la preuve ouverte et vérifiable par tous. Donc la plupart des entreprises qui viennent nous voir ont déjà conscience de notre activité et à quoi pourrait servir cette primitive technique en fait qu'on développe. Et du coup, elles arrivent déjà avec une réflexion qu'elles ont en interne sur un point dur qu'il y a, sur un problème de confiance. Et c'est souvent avec des acteurs qui sont en dehors de leur société, sur des échanges justement qu'il faut sécuriser. Parce que par défaut, quand on ne connaît pas un interlocuteur, on n'a pas forcément confiance. Et pour cela, ben, l'usage d'une blockchain publique, justement, où on peut vérifier les informations sans pour autant les exposer, hein, pour celui qui les sécurise, ben, ça a plein d'utilisations. Et souvent, les entreprises qui viennent nous voir ont déjà une idée de quel secteur elles vont attaquer avec notre solution. Et nous, on leur fournit les outils techniques en fait, pour y arriver.
D'accord. Et donc, elles ont un niveau de connaissance qui est assez élevé, on va dire, par rapport effectivement à ce qu'on a dit dans la salle tout à l'heure.
Oui, en fait, généralement, quand ils viennent nous parler, il y a déjà une recherche qui a été faite en amont. Alors, pour nous, c'est forcément agréable parce qu'on n'est pas sur un sujet, on va dire, simple à aborder. Donc, forcément, on a un meilleur contact avec les personnes qui connaissent déjà les limitations de la blockchain et ce pourquoi on peut vraiment l'utiliser. Et donc voilà, donc on a plutôt affaire à des gens qui ont déjà une connaissance de la technologie et des possibilités.
D'accord. Et peut-être un peu même question pour Claire. Oui, et quels sont les besoins pareil des entreprises quand elles viennent vous voir?
Alors, nous, à la différence de Woolit, pour le coup, on est moins ciblé puisqu'on adresse, une palette de cas d'usage plus large. Donc, pour le coup, les entreprises qui viennent nous voir, souvent, elles ne savent pas vraiment ce qu'est la blockchain. Alors, pour la majorité d'entre elles, pas toutes, mais il y en a beaucoup qui ont besoin, dès le départ, d'une phase d'acculturation et qui viennent nous voir en nous disant « j'ai entendu parler de la blockchain, ça a l'air d'être quelque chose d'important qui pourrait avoir des conséquences sur mon entreprise, mais en fait, je ne sais pas du tout quoi en faire. Et donc, j'aurais besoin que vous nous aidiez à déterminer... voilà, qu'est-ce que la blockchain peut nous apporter et comment on peut expérimenter. Donc nous, pour le coup, même si on fait aussi de l'accompagnement technique, souvent on commence par cette phase d'acculturation, cette phase de recherche des cas d'usage qui est essentielle.
D'accord, et ça passe par de la formation ?
C'est ça, ça passe par de la formation des collaborateurs. Alors ça peut être de la formation technique, mais souvent aussi c'est de la formation des métiers, c'est de la formation du département innovation, du département financier, etc. Et puis après, souvent, il y a des ateliers qui peuvent être sous forme d'idéation, de hackathon, de brainstorming, sous différentes formes qu'on propose, où là, on va rechercher quels sont les cas d'usage blockchain qui peuvent être pertinents pour l'entreprise. Et donc souvent, au début, on en trouve plein. On peut en trouver 20, 30, 40. Et puis ensuite, on les filtre, on les passe au crible pour arriver à n'en laisser que, on va dire, entre 2 et 5, qu'on va retravailler et éventuellement pousser jusqu'au POC.
D'accord. Et vous, Jean-Paul Julien, puisque voilà, vous menez effectivement cette expérimentation chez SNCF Réseau, et vous me disiez, quand on a eu des échanges avant la table ronde, que vous n'avez pas vraiment de connaissances pareilles sur la blockchain. On vous a un peu mis sur le fait.
Comment on ne m'a pas mis sur le fait, mais donc c'est dans le cadre du programme R, donc programme innovation SNCF, qu'on a rencontré un partenaire, Kix en l'occurrence, avec un besoin, en fait, un besoin réel, qui est un besoin de traçabilité et d'authentification de nos documents. À savoir que dans les études ferroviaires, il y a des études de signalisation qui sont faites, qui sont très volumineuses en termes de documents produits. Et donc, on cherchait une solution qui, à la fois, nous permette de remplacer la signature papier, on va dire, et d'avoir un circuit plus rapide de signature, certification, validation, soit en interne, soit à destination des industriels avec qui on travaille et qui font de l'assignation pour nous, en fait. Donc le besoin était connu, on va dire, chez nous et s'adaptait parfaitement à la blockchain, en fait.
D'accord. Et donc, vous n'aviez pas de formation spécifique?
Non, je n'ai pas de formation spécifique blockchain, hein, soyons clairs. Je n'ai pas de connaissances spécifiques blockchain, je n'ai pas de bitcoin. Désolé. Mais voilà, quoi. Donc, c'était un monde nouveau pour moi, en fait, cette partie-là, clairement.
D'accord. Nicolas Arlet, peut-être justement, qui en général prend en charge les sujets blockchain en entreprise aujourd'hui, puisque voilà, pareil, il y a un chiffre qui apparaît dans le sondage du MEDEF, que 16% des entreprises interrogées pensent nommer ou ont déjà nommé un responsable blockchain. Donc,
effectivement, on constate dans le sondage qu'il y a une envie importante, les 69%, Charlie, que vous citiez, d'entreprises qui veulent aller sur le blockchain, mais dans la réalisation, nommer quelqu'un de responsable, c'est quelque chose d'assez rare, 16%. Dans les grands groupes, on voit deux endroits d'où ça émerge. La direction des systèmes d'information, c'est en général un premier endroit. Et puis ensuite, il y a un autre endroit qui est autour de marketing et innovation. Et là, ce sont des sujets qui sont portés comme l'intelligence artificielle, comme la robotique, comme l'Internet des objets, qui sont des choses un peu immatures. Et s'il n'y a pas une éducation de la direction générale sur ce que c'est, sur les sous-jacents technologiques et sur le fait que la quatrième révolution industrielle que nous vivons est exponentielle, ça ne passe pas. Et donc s'il n'y a pas un réel mandat dans l'entreprise de le prendre au plus haut niveau, de même que l'intelligence artificielle, de même que l'Internet des objets ou de même que la robotique, à ce moment-là, c'est souvent, et on verra tout à l'heure, source d'échecs ou source de POC multiples qui n'iront pas jusqu'au bout.
Olivier Sénaud, pareil, qui sont vos interlocuteurs ?
Alors d'abord, je suis très content d'apprendre que je suis un spécimen rare, hein, puisque j'ai été nommé responsable blockchain chez DocaPost. On en reparlera. La problématique s'est posée de façon très différente. DocaPost est un tiers de confiance. Et comme l'a dit Rodolphe tout à l'heure, la blockchain a renvoyé à la périphérie du processus toutes les notions de confiance. Donc on a entendu beaucoup, que ce soit à San Francisco ou à Singapour, des gourous de la blockchain expliquer que ça permettrait de supprimer définitivement tous les tiers de confiance. DocaPost, mais aussi les banques, les assurances, puis les gouvernements. Bon, on est un petit peu retombé, puisque maintenant, toutes les organisations sont bien conscientes que la blockchain va leur permettre soit d'accélérer le business, soit de réduire les coûts back-office. On le verra tout à l'heure avec les applications, effectivement, d'assurance paramétrique, par exemple. Et se sont également rendus compte depuis 6 mois, 1 an, que la confiance qui était en périphérie restait nécessaire dans l'environnement blockchain. Alors cette analyse, nous l'avions faite en tant que tiers de confiance il y a 2 ans, et on a un petit peu inversé le processus, on s'est demandé comment apporter de la confiance en périphérie d'une blockchain pour les futures applications documentaires, paramétriques ou transactionnelles. Et c'est comme ça qu'on a développé une offre spécifique qui permet l'archivage de documents sous-jacents aux transactions blockchain. Et donc d'avoir une capacité à renverser la charge de la preuve, même au travers des transactions blockchain, puisque... Alors je peux continuer longtemps, il faut m'interrompre, hein, sinon je prends... puisque les transactions qui nécessitent un document sous-jacent, lorsqu'on archive, on va renverser la charge de la preuve. Et pour ça, on va utiliser des smart contrats. Alors, je voudrais reprendre Rodolphe, je suis désolé, mais un smart contrat n'est ni élégant, ni intelligent, et ni juridique. Donc aujourd'hui, un smart contrat, c'est un ensemble de codes qui est exécuté if-then, effectivement, hein, si alors, c'est du paramétrique, mais c'est une entité qui est allégale, c'est-à-dire qui n'a pas aujourd'hui de statut juridique en titre propre, comme là un document signé, comme là une transaction interbancaire sur Swift, etc. etc. Donc ce smart contract, qui est donc ni juridique ni intelligent, va nous permettre par contre d'aller dans la blockchain chercher des informations, de réconcilier une transaction avec un document et de donner accès à l'ensemble des informations de preuve à n'importe qui, autorisé ou non en fonction publique-privée, qui vient se connecter sur un browser de blockchain.
Mais alors, qui sont vos clients exactement ?
Alors, nos clients sont tous les fournisseurs d'applications, qu'ils soient loueurs. On a vu Slowkit, là, qui, effectivement, dans l'Internet des objets, est très prometteur dans le mariage entre la blockchain et les IoT. Et qui vont développer des applications permettant, en pair à pair, de louer un appartement et de l'ouvrir directement avec un QR code ou avec un autre processus au travers d'une serrure connectée. Mais pour louer cet appartement ou la voiture avec Drivee ou toute autre application de location, on aime bien avoir des conditions générales, ne serait-ce que pour savoir s'il faut rendre l'appartement propre ou pas, qui paye l'électricité, dans une voiture qui paye les PV, l'essence, etc. Et ces conditions générales, que ce soit en droit anglo-saxon ou en droit latin européen, elles doivent être consignées dans un document qu'on appelle vulgairement un contrat, qui n'est pas smart, hein, donc ce n'est pas un smart contract, là on parle bien d'un contrat au sens juridique du terme, et ce contrat, il doit être partagé par les deux parties, et il doit être identique à droite et à gauche. Donc nos clients sont tous ceux qui ont besoin d'un archivage à vocation probatoire, d'une opposabilité juridique sur des conditions générales ou un contrat issu d'une transaction blockchain.
Et aujourd'hui, là, peut-être pour les entreprises dans la salle, mais voilà, aujourd'hui, je suis une entreprise. Comment, voilà, je suis un responsable innovation. Comment je fais pour convaincre ma direction, qui voit blockchain, qui ne sait pas trop ce que c'est, on va dire. Comment je fais pour la convaincre de mettre en place un projet blockchain? Donc peut-être Nicolas.
Donc le commencement, je reviendrai sur l'évolution exponentielle de la technologie. Il faut se dire qu'en 10 ans, le coût de stockage de données a été divisé par 100. Pour 1 euro, on calcule entre 40 et 50 fois plus. Et pour 1 euro, on peut transmettre 30 fois plus d'informations. Et ça, c'était en 10 ans. Et comme c'est exponentiel, ce qui est arrivé en 10 ans va arriver en 3 ans. Dans les 3 prochaines années, le coût de stockage, si les lois qui régissent la technologie continuent, dans 3 ans, les coûts de stockage vont à nouveau être divisés par 100. Ce qui avait pris 10 ans va prendre 3 ans. Pareil pour la puissance de calcul, pareil pour la transmission. Et donc, quelque chose objectivement d'absurde comme blockchain, qui est je prends une information, je la crypte avec un algorithme de cryptage, avec plus ou moins de miners, mais cryptologie. Je le diffuse dans 5000 à 50 000 ordinateurs. Je stocke tout ça. J'ai un algorithme de consensus qui est super puissant, qui est capable de en quelques secondes, en quelques minutes, de tester l'information. Tout ça, c'est possible parce que les lois technologiques évoluent tellement vite qu'elles rendent ceci économiquement possible. Et donc, il faut se dire que les sous-jacents techno qui permettent à la cryptographie, au stockage, à la transmission et à l'algorithme de consensus, ces lois-là rendent la chose économiquement faisable. Et donc, c'est en cela... Et ça, c'est non seulement économiquement faisable, mais dans 3 ans, ce sera 50 à 100 fois plus puissant. Et donc, tous les débats qu'on a sur les débats de vitesse et tous ces débats-là... Et donc, si on regarde le fond du truc, c'est cette éducation en disant « Regardez, ça se passe et ça se passe très vite. » Et donc, ça commence toujours par là, et c'est vrai pour l'intelligence artificielle, la robotique et l'Internet des objets. Et donc, c'est la même famille. Et donc, ça commence par cette prise de conscience. Et ensuite... Ben, c'est toujours des learning expeditions, la compréhension, la curiosité, et enfin ne pas se gourer. Blockchain, est-ce que c'est une solution qui cherche souvent des problèmes, ou est-ce que c'est le moyen de résoudre les problèmes de l'entreprise? Et donc il y a cette inversion en ce moment, et sur lequel ce débat-là est pas forcément rempli, et beaucoup d'entreprises partent en disant « je veux faire du blockchain » sans se demander « c'est quoi mon problème ?»
Et vers qui il vaut mieux se tourner, va dire, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup, on a évoqué des consortiums, il y a de gros consortiums dans la banque, dans l'assurance, mais qui peuvent être assez chers. Il y a voilà, des start-up qui aident. Vers qui voilà, une entreprise doit-elle se tourner? Est-ce qu'elle doit d'abord commencer en interne?
Donc les entreprises, elles doivent déjà comprendre le fonctionnement. C'est l'étape 1. Comprendre et s'éduquer à tout niveau dans quelque chose qui bouge très très vite. Tous les jours, il y a 20 news sur blockchain qui sont importantes. Et donc, ça va très vite. Et donc, c'est s'éduquer en permanence au niveau du COMEX. Deuxième chose, comprendre l'écosystème. On va parler d'open innovation. Et donc, ce que font les startups, c'est beaucoup plus agile que ce que font la plupart des grands groupes. Et donc, s'éclairer, donc ce que fait Claire, ou toute l'éducation et l'éclairage, c'est essentiel. Et donc, aller voir les solutions et les cas d'usage, et comprendre avec ceux qui l'ont fait. Et donc, là où c'est de plus en plus à l'échelle, c'est clairement en Chine, où il y a beaucoup d'avance. Christian, tu le citais tout à l'heure. Et donc, en Chine, il y a des chaînes de production blockchain qui sont en place au-delà du Bitcoin. Et donc, c'est comprendre tous ces mécanismes. Et ensuite, se dire, je vais travailler en interne, je vais travailler avec des startups, et je vais travailler en consortium sur des cas d'usage que j'ai choisis pour résoudre un problème. Et dans ces problèmes, je vais devoir me poser la question de est-ce qu'une bonne vieille base SQL, ça pourrait marcher parfois mieux que blockchain. Et donc, il y a aussi cet arbitrage. Quoi. On n'est pas forcé de faire un registre sur blockchain. Alors, ça fait super sexe, mais fondamentalement, une base SQL, c'est parfois très très bien aussi. Et donc, il faut toujours se raison garder sur blockchain.
pas faire de la blockchain pour faire de la blockchain. Maintenant, on va peut-être justement passer au cœur du sujet, qui sont donc ces cas concrets. Une fois qu'on a convaincu ses dirigeants, qu'on a désigné une équipe, on peut se lancer dans l'expérimentation. Donc, on va en passer en revue quelques exemples. On va commencer par les cas d'usage plutôt dans la finance, puisque c'est un peu eux qui ont commencé à s'emparer de ces sujets. Donc, on va commencer avec Claire, qui a notamment le cas d'usage peut-être de la BNP, qui est mis en production aujourd'hui. D'ailleurs.
Tout à fait. Alors, la BNP, effectivement, est, à ma connaissance, probablement l'entreprise française la plus en avance sur le sujet blockchain, puisqu'ils s'y sont mis dès 2014. Donc, en 2014, ils ont organisé des grosses sessions d'ateliers pour à la fois s'acculturer et rechercher les cas d'usage qui pouvaient être pertinents pour eux. À partir de là, ils ont lancé une quinzaine de POC à peu près, dont une dizaine avec nous. Et effectivement, parmi ces POC, il y en a certains qui aujourd'hui passent en production. Alors, on pourrait en parler longtemps, mais typiquement, un cas d'usage qui est intéressant, c'est celui du crowd equity. Donc, le crowd equity, vous savez, c'est ce système qui permet à des investisseurs, qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, d'investir dans des entreprises en acquérant du capital. Et donc l'idée ici derrière ce projet, c'était d'utiliser la blockchain comme registre pour les titres de sociétés non cotées. Et donc en fait, on va dans ce registre utiliser ces actifs numériques, ces tokens, pour symboliser les titres, les parts des entreprises, et de cette manière créer un marché secondaire des titres de sociétés non cotées. Et donc les investisseurs peuvent assez facilement s'échanger ces titres, se les acheter, les vendre, etc. Et donc pour ça, la BNP a fait un partenariat avec Smart Angels au départ, qui est une plateforme de crowdfunding et crowd equity. Et depuis, avec d'autres acteurs, notamment des startups dans le secteur de l'énergie, par exemple. Et c'est un cas d'usage que je trouve extrêmement intéressant et qu'à ma connaissance, le régulateur suit aussi de près, puisque ça, comme ça permet de digitaliser finalement ce marché du crowd equity, ça permet aussi un meilleur audit des titres de société. Donc forcément, pour le législateur, c'est intéressant.
D'accord, oui, effectivement, on a beaucoup entendu parler de ce cas. Peut-être, Olivier Senot, vous allez peut-être nous parler d'une des dernières actus dans le secteur de l'assurance avec AXA, qui donc a lancé aussi une assurance sur la blockchain.
Alors d'abord, De Capos et AXA n'ont rien à voir ensemble sur ce cas d'usage, hein, je précise. Par contre, ils ont lancé une assurance paramétrique qu'il est intéressant de disséquer, puisque au-delà du buzz sur le fait de prendre une assurance basée sur la blockchain, qui est une assurance qui couvre les retards d'avion entre Paris et New York, en le disséquant, on s'aperçoit de deux choses. La première, c'est que l'assurance paramétrique sur des smart contrats annule 100% des coûts back-office. Donc, vu du côté AXA, quand vous payez vos 8 dollars pour vous assurer contre un retard éventuel de vol, c'est 8 dollars de marge hors exploitation technique, donc hors paiement des primes au sinistre. Lorsque vous arrivez en retard, un oracle, donc, qui est une base de données recensant l'intégralité des heures d'arrivée par rapport à votre vol, va donner l'information via un smart contract à la blockchain, disant le vol que vous avez utilisé a 2 heures de retard, donc dans les paramètres de mon assurance, si j'ai plus de 2 heures de retard, je vais récupérer la prime qui est de 40 dollars ou 50 dollars, je ne sais plus. Et je suis indemnisé automatiquement. Vu du côté d'AXA, cette opération a coûté 0 en back-office. Et c'est là tout l'intérêt de ce genre d'outils, c'est que le risk management assurantiel, donc l'actuariat assurantiel, va pouvoir déployer sur la blockchain tout un ensemble de micro-assurances. Alors là, on parle d'AXA, mais il y en a d'autres. Aux États-Unis, il y a Free Insurance qui met ça en place. Il y a des communautés qui ont mis ça en place pour les pare-brises. Donc, toutes ces assurances paramétriques vont permettre d'annuler tous les coûts back-office. Il faut savoir, par exemple, que pour un assureur, tous les contrats d'assurance liés au téléphone mobile ont un résultat technique nul. C'est-à-dire qu'ils ne gagnent pas d'argent sur l'assurance des mobiles, des devices. l'assurance paramétrique pourra éventuellement résoudre ça, puisque l'essentiel du coût lié à ces contrats d'assurance est lié au back-office. Quand vous perdez ou cassez votre téléphone, il faut faire un dossier. À l'autre bout, vous avez un opérateur qui va analyser le dossier, valider que vous l'avez bien le propriétaire, que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour être indemnisé, et va finalement vous indemniser. Le fait de basculer sur une blockchain, pour l'assureur, il va pouvoir mesurer son risque et automatiser 100%. Plus de coûts de back-office, ça veut dire qu'il peut revenir à un équilibre dans l'exploitation technique qui va de nouveau dégager de la marge. Donc ça, c'est un point intéressant à disséquer, puisque là, le grand gagnant, entre guillemets, de l'utilisation de la blockchain, c'est bien AXA, c'est bien grâce à la technologie qui va pouvoir générer de la marge, et la marge c'est important pour l'entreprise, et qui va pouvoir réduire ses coûts back-office. Alors je peux continuer comme vous voulez. Peut-être laisser la parole aux autres.
Oui, et puis juste petite précision, effectivement, donc AXA a monté cette plateforme avec donc une start-up qui s'appelle donc UtoCat. Voilà.
Oui, UtoCat.
Très bien, peut-être enchaîner aussi sur un autre exemple avec Claire, qui est la Banque de France. Alors évidemment, tout le monde n'est pas la Banque de France, mais voilà, ça peut être un modèle qui peut être répliqué.
Oui, effectivement, ça peut paraître étonnant au départ, puisque par essence, la Banque de France est aussi un organisme centralisateur, mais ils ont eu cette volonté assez tôt, en 2015, d'expérimenter la blockchain et de voir si ça ne pouvait pas leur être utile. Et effectivement, on a monté avec eux. Alors au départ, c'était un POC et c'est assez rapidement passé en production. Ça s'est passé en production en 6 mois à peu près. En fait, ce projet, ça consiste dans la décentralisation du registre des identifiants créanciers CEPA. Finalement, chaque entreprise a un identifiant ICS et donc ce registre groupe tous ces identifiants et les différentes banques de la place sont amenées à faire des requêtes pour demander l'accès à la consultation de ce registre ou la modification de ce registre. Et donc ce qui se passait avant, c'est qu'en fait la Banque de France centralisait complètement la gestion de ce registre et donc c'était un service qui facturait aux différentes banques. Et le process se faisait encore avec du papier, donc il y avait des lettres, il y avait des processus de saisie des données, de validation, donc forcément c'était très long. Ça mettait parfois plusieurs semaines pour avoir une modification du registre. Et donc l'idée derrière ce projet, c'était de créer une blockchain avec les différentes banques dans laquelle on allait créer des smart contracts pour gérer les process métiers, pour automatiser et digitaliser complètement ce processus. Alors ça a eu plusieurs conséquences. Le côté très positif, c'est que ça a vraiment permis d'automatiser le process et de réduire les délais de traitement. On est globalement passé de plusieurs semaines à quelques minutes ou quelques heures, selon le temps de validation de l'être humain derrière, puisqu'il y a encore un être humain qui valide. Mais ça automatise véritablement une grande partie du processus. L'autre conséquence, c'est que les banques ont d'un coup leur part de responsabilité dans le système, puisque qui dit blockchain privée dit différents acteurs qui gèrent leurs nœuds, donc qui gèrent l'infrastructure informatique, qui peut être gérée sur un serveur interne, qui peut être en cloud aussi. Mais d'un coup, les banques se sont retrouvées à devoir gérer ce nœud. Et donc, d'un coup, le service que la Banque de France facturait ne sera plus facturé aux différentes banques. Donc, il y a aussi un changement de business model pour la Banque de France, qui a l'espoir qu'après cette expérimentation-là et ce projet-là, ils vont pouvoir justement utiliser cette base, cette blockchain-là, pour avoir d'autres cas d'usage, d'autres axes de collaboration avec les différentes banques.
D'accord. Vous avez déjà d'autres idées de ces cas d'usage, justement ?
Pas encore. Non, pour l'instant, et puis c'est confidentiel.
Oui. Ok, très bien. Donc peut-être avant de partir sur des cas d'usage en dehors du secteur financier, quelles sont, Nicolas, un peu les applications aujourd'hui, on va dire, les plus répandues, voilà ce que les entreprises font le plus.
Alors même si c'est parti dans la banque et sur tout ce qu'on appelle le post-trade, donc qui correspond à des éléments que Claire décrit, Il y a en ce moment une grande vague sur tout ce qu'on appelle la traçabilité. Et donc on en a tous parlé, la traçabilité et l'identité. Ce sont les deux grands cas d'usage qui se développent avec des questions qui sont soit la traçabilité d'une information, soit la gestion de la fraude. Donc il y a un certain nombre d'acteurs industriels aujourd'hui qui se disent, voilà, je produis tel bien industriel, quand il est vendu en Chine, il y a un tiers des produits qui sont en contrefaçon. J'aimerais garantir la contrefaçon, disons, protéger et pouvoir certifier que mon produit, il est bon. On voit la traçabilité des chaînes alimentaires que décrit Rodolphe avec Walmart. Ça va être déployé chez Carrefour. Donc il y a déjà des productions et des mises en production pour suivre le ton. Donc on pourra avoir un QR code. Vous scannerez le QR code et vous verrez quel crier, quel bateau pêcheur, et même la photo du pêcheur qui a pêché votre thon, que vous achetez en supermarché. Bon, ça a des applications. Et donc ça, cette traçabilité, on le voit, et donc il y a des traçabilités aussi pour suivre les vols de diamants. Donc il y a une boîte super connue qui s'appelle Everledger, qui est une icône de traçabilité d'objets de luxe. Et là, l'ensemble des industriels se disent, objet de luxe, j'ai envie de tracer, je veux savoir quand c'est volé, quand ça réapparaît sur eBay. Et donc ça c'est une traçabilité avec un business case qui est très clair. Il y a aussi des traçabilités sur les acteurs des mines. Je prends un échantillon de sol et je veux certifier que cet échantillon il vient bien de cet endroit. Et donc notamment pour tous les forages pétroliers ou les valeurs minières d'un terrain, on voit des grands industriels en Afrique et en Australie qui commencent à bouger sur cette traçabilité. Et donc ça suppose d'avoir effectivement un tiers de confiance au début, et donc la confiance de l'oracle, ce qui était cité tout à l'heure au début, mais ensuite sur cette traçabilité pour l'avenir, c'est là le domaine que l'on voit. Et le dernier sujet, c'est identité. Et donc Rodolphe, il y a eu plusieurs exemples qui ont été cités sur l'identité d'un enfant de 18 ans, donc au lieu de donner toute sa pièce d'identité, il y a une chaîne qui dit oui ou non, j'ai plus ou moins de 18 ans. Et donc ça, un certain nombre d'acteurs émetteurs de pièces d'identité, de passeport, et donc la Poste australienne en ce moment est en train de développer clairement des identités de personnes, parce que c'est la Poste en Australie qui émet les passeports et les pièces d'identité nationales. Il y a des réflexions de la même manière en Pologne ou dans différents États européens, l'Estonie étant en pointe, sur l'identifiant unique certifiant et permettant de répondre à une question. Et donc, on pourra le relier au numéro fiscal. Est-ce que vous gagnez plus ou moins de tel montant? Est-ce que vous êtes éligible? Donc, au lieu de donner votre montant d'impôt, on verra si vous avez le droit aux allocations familiales, si vous devez payer votre taxe d'habitation, etc. etc. Et donc, répondre à des questions binaires est quelque chose que les États regardent de plus en plus.
Effectivement, et vous avez cité l'exemple de l'Estonie, effectivement, qui ont fait beaucoup de choses sur la blockchain. Très bien. Ok, donc on va passer maintenant au cas d'usage en dehors donc des services financiers. Du coup, je me tourne vers vous, Jean-Paul Julien. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet blockchain donc, qui a été mené sur la signalisation ferroviaire? Si vous pouvez un peu revenir sur l'origine de ce projet, nous dire tout un peu.
Alors l'origine du projet, en fait, c'est une recherche de réduction de coûts et de réduction de temps process, on va dire, sur la transmission d'infos entre services ou entre nous et nos partenaires sur nos documents d'études, donc études de signalisation. Donc ces documents, comme je l'ai dit, représentent des masses assez considérables qui doivent être signées systématiquement à chaque étape. À partir de là, évidemment, sur un process papier, on imagine bien le temps d'impression, le temps de signature, le transport et autres, c'est assez compliqué, sachant que la référence reste le papier pour l'instant et pas le document numérique qui est à la base du document imprimé. Pardon. Donc à partir de là, on cherchait une solution. Et donc, dans le cadre de l'innovation, on s'est tourné vers la technologie blockchain, sachant que pour nous, donc, on est dans le phénomène de la traçabilité, en fait, l'authentification, la signature et la traçabilité du document. Donc, voilà sur le projet en lui-même, en fait. Après, je peux rentrer dans la partie technique purement, si vous le souhaitez, mais
à qui ça bénéficie en fait chez vous?
Alors chez nous, ça bénéficie à la partie donc ingénierie projet sur cette partie donc signalisation ferroviaire, à tous les services impactés par les études en fait. Donc à la fois les agents donc qui réalisent la signalisation, en même temps en parallèle les prestataires qui eux font une partie de la signalisation due à de l'expertise, due à une charge de travail. Ça passe sur toutes les parties vérification donc de la signalisation, où ces documents sont aussi transmis, sont amendés. Voilà, et tout le circuit retour d'information lorsqu'il y a des documents à amender ou à transformer, enfin toute cette partie-là, et jusqu'à la fin où on arrive en conformité et où le document là prend une nouvelle valeur, où la signature prend une nouvelle valeur, à savoir que à partir du moment où l'étude est terminée, où sur le terrain on a une conformité entre les documents et ce que l'on constate sur le terrain, il y a une dernière signature d'un point de vue direction qui est apposée, qui elle a une valeur juridique véritablement, à savoir que si un jour il y a une instruction suite à une catastrophe ferroviaire, un juge d'instruction va demander donc le document référence, sachant que ce document référence actuellement donc, est papier et qu'on veut passer au numérique. Donc on a eu un dernier écueil, on va dire juridique, sur la signature.
Et quel bénéfice, du coup, vous tirez de cette expérimentation ?
De l'expérimentation ? Oui. Déjà, on s'aperçoit, alors, à notre modeste niveau, étant donné qu'on n'est pas centre informatique ou autre, on s'aperçoit qu'en fait, cette technologie, mine de rien, a été, pour nous, donc avec pas mise en place par nous, mais avec à l'aide d'une start-up en fait française, Kix, cette technologie pour nous a été très simple à mettre en œuvre en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a donc nous un process déjà numérique, même s'il n'est pas engageant, c'est-à-dire sans signature ou autre, on peut facilement mettre en place cette notion donc d'authentification blockchain, telle que vue dans notre SI en fait. Voilà, donc ça c'est le premier enseignement qu'on en retient, c'est-à-dire que la partie technique n'a pas été un frein, loin de là, quoi, en fait. Ensuite, le deuxième enseignement, c'est dû à notre projet purement, c'est que nous, on a directement un vrai gain, en fait, sur ce point-là. En fait. Après, je dirais le point négatif, enfin, je ne sais pas si ça fait partie de la suite ou si. Donc, sur les difficultés sont principalement sur le juridique, en fait. À savoir que comment je fais pour faire moi, donc direction technique purement, comment je fais entendre au juridique SNCF que, regardez, j'avais une signature papier, on connaît la valeur et la légalité de cette signature, comment je peux vous prouver que ma signature numérique a la même valeur. Et c'est pour ça qu'on est encore en POC. C'est pas évident en fait. Alors on a beau leur montrer que d'autres, alors même si en France les choses avancent, on a beau leur montrer que dans d'autres pays en effet c'est devenu plus, ça a plus une véritable valeur juridique vis-à-vis de SNCF. Il y a toujours le F dans SNCF malheureusement, mais c'est beaucoup plus difficile de leur faire entendre qu'aux États-Unis certains États reconnaissent la signature via la blockchain comme étant valide. Ça passe pas, en fait. Donc on a encore cet écueil-là où on se retrouve pour l'instant avec un double système papier et numérique sur notre POC, en fait.
D'accord. Vous êtes donc toujours en expérimentation ?
On est toujours en expérimentation, oui. Pour l'instant.
Et vous avez encore, vous avez une idée ou pas du déploiement, peut-être au niveau national ?
Alors, s'il est déployé, ce sera national, en fait, clairement. Le seul écueil est là, en fait. Techniquement, on a démontré que ça fonctionnait. On a démontré qu'on pouvait vérifier de la même manière qu'on vérifie sur du papier, mais il est clair qu'on parle de travail, donc d'authentification de documents, de traçabilité avec des prestataires, avec des industriels, donc il faut que je puisse démontrer que contractuellement je vais pouvoir utiliser cette signature de la même manière. Donc tant que j'ai pas, alors je sais que les choses avancent actuellement assez vite, mais tant que j'ai pas cette preuve formel de juridiquement cette signature est acceptable, j'ai du mal à pouvoir remplacer entièrement mon process papier.
D'accord. Ok. Gilles Cadignan, peut-être vous aussi, vous m'avez parlé effectivement d'un projet de gestion d'appels d'offres dans le bâtiment. Ça peut peut-être parler à pas mal de gens dans la salle.
Oui, alors c'est assez proche en fait du cas d'usage SNCF, puisqu'on est sur un environnement où on a plusieurs acteurs qui doivent se mettre d'accord sur un très gros volume de documents. Sur des gros chantiers de plusieurs dizaines de millions d'euros, ça peut représenter parfois 2000, 3000 documents. Et jusqu'ici, tous ces documents étaient numériques, mais on se retrouvait pour la signature et on imprimait donc des mètres cubes de papier. Et on se réunissait à 40 autour d'une table et on paraffait et on signait tous les documents. ça prend des heures. Et des fois, on tombe sur des cas où il y en a un dans la salle qui voit un document, qui dit mais c'est pas la bonne version, on s'était pas mis d'accord sur ça exactement. Et comme dans le bâtiment, ben voilà, on sait qu'ils sont un peu filous des fois, ils ont un peu peur entre eux. Et on est pile dans un cas d'usage où la blockchain sert à vraiment accélérer le process de signature sans rompre en fait la chaîne numérique. Donc en fait, avec un professionnel du bâtiment qui a 15 ans d'expérience dans un grand groupe de bâtiments français, on a imaginé une application où en fait, le donneur d'ordre, celui qui a gagné le marché, va devoir signer avec tout un tas de contractants. Il va lui-même ancrer en fait, toutes les pièces du marché à travers un outil web très simple.